E-Radio, aujourd'hui en Europe.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Romain. Alors aujourd'hui, évoquons ensemble l'action de l'Union européenne déployée dans les Balkans. Lundi 10 janvier, la Cour des comptes de l'Union, cet organisme chargé de surveiller la gestion financière des institutions, a publié un nouveau rapport très critique sur le sujet.
Bonjour Ulrich, bonjour à tous. Oui, un rapport très critique en effet. La Cour des comptes a conclu que la politique d'aide financière massive déployée par l'UE et depuis des années pour encourager l'état de droit dans les Balkans n'a eu, je cite, que peu d'impact pour les 6 états de la région, à savoir la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Macédoine et enfin le Kosovo.
Alors entre 2014 et 2020, l'Union a dépensé pas moins de 700 millions d'euros pour cette région pour aider au renforcement de l'état de droit et les rapprocher d'une adhésion à l'Union. Qu'est-ce qui fait dire à la Cour des comptes que ces efforts ont été pratiquement vains?
Eh bien, tout d'abord, Ulrich, ces aides financières n'ont pas servi à rien. Le rapport salue, je cite, de réelles réformes concernant des questions techniques et opérationnelles. Mais d'un autre côté, c'est vrai, les États des Balkans n'ont pas amélioré l'indépendance de leurs instances judiciaires, lesquelles continuent d'être bien souvent soumises à l'ingérence politique ainsi qu'à la corruption.
Alors, la Cour des comptes pointe du doigt la responsabilité des autorités européennes dans cette situation.
Oui, en effet, la Cour a déclaré regretter que les fonds européens soient accordés, je cite, de manière incohérente et sans suivi de la destination pour ces 700 millions d'euros dont il est question. Autrement dit, sans dispositif suffisant pour empêcher que ces fonds ne finissent par alimenter toujours cette corruption au lieu de répondre aux besoins réels de ces pays en matière de développement ou encore de réformes institutionnelles.
Alors, le même jour que la publication de ce rapport, lundi 10 janvier, une manifestation a eu lieu pour dénoncer la crise politique qui a lieu depuis plusieurs mois en Bosnie-Herzégovine, l'un des pays particulièrement fragiles, on le sait, de la région.
Oui, alors que justement la Cour des comptes note que la liberté d'expression s'est encore dégradée dans l'ensemble de la zone. Lundi, c'est à Bruxelles et non en Bosnie que des citoyens de ce pays se sont réunis. Ils se sont réunis pour appeler l'Union à soutenir l'unité de leur pays. Un pays qui est aujourd'hui en proie à des tensions sécessionnistes croissantes.
Alors Mirola Dodic, le dirigeant nationaliste de la Republika Srpska, la partie serbe de la Bosnie, a fait justement passer en décembre une loi au Parlement régional à Banja Luka, engageant la République serbe du pays à se séparer des institutions centrales dans un délai de 6 mois.
Oui, et c'est dans ce contexte extrêmement tendu qu'une nouvelle étape a été franchie dimanche dernier, après qu'un défilé aux allures de parade militaire a été organisé par les forces de sécurité bosno-serbes. Une parade bien entendu soutenue par Milorad Dodik et qui s'est déroulée à la date symbolique du 9 janvier. 9 janvier qui est, on le rappelle, l'anniversaire de la création de la République serbe de Bosnie, il y a 30 ans, juste avant le début de la guerre de Bosnie en 1992. Cette guerre qui s'inscrit dans les conflits qui ont accompagné l'éclatement de la Yougoslavie a fait plus de 100 000 morts et 2 millions de réfugiés.
Alors jusqu'ici, Romain, comment est-ce que la communauté internationale a-t-elle réagi ?
Eh bien Ulrich, les États-Unis ont pour l'instant déjà pris des sanctions contre la personne de Milorad Dodik. L'Union européenne, pour sa part, n'a en revanche pas encore pris de mesures similaires, car certains États, comme la Hongrie par exemple, s'y opposent. Des divisions qui faisaient craindre lundi aux manifestants présents à Bruxelles que l'UE ne les abandonne et reste passive, comme lors du conflit de 1992. Pour l'instant, la Commission européenne se contente donc de condamner ce projet politique de Dodik qui va, je cite, « à l'encontre de l'unité, de la souveraineté et aussi de l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine ».
Alors terminons ce journal en nous arrêtant en Allemagne. Le gouvernement d'Olaf Scholz vient de dévoiler un ambitieux plan climatique pour le pays à l'horizon 2030.
Oui, c'est le ministre de l'économie et de la protection du climat, Robert Habeck, qui l'a annoncé mardi 11 janvier. L'Allemagne se dote d'un programme d'urgence pour réduire drastiquement les émissions de carbone du pays. L'objectif affiché est de tripler le développement des énergies renouvelables d'ici à 2030, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité de l'Allemagne dans ces domaines.
Alors un chantier titanesque alors que Berlin est en retard dans les ambitions climatiques européennes, à savoir de réduire de 50% les émissions de carbone d'ici à 2030.
Oui, Ulrich, mardi, Robert Habeck a confirmé que loin de se réduire, les émissions de CO2 allemandes devraient afficher au contraire une augmentation totale de 4% pour l'année 2021. Toujours selon le ministre allemand, cela signifie que l'Allemagne ne sera pas en mesure de respecter ses objectifs environnementaux pour 2021, mais aussi pour 2022 et même 2023. Si Berlin veut donc espérer atteindre la neutralité carbone qu'elle s'est engagée à atteindre pour 2045, Robert Habeck a donc déclaré que l'Allemagne devra non plus réduire ses émissions de 15 millions millions de tonnes par an de CO2 en moyenne, rythme qu'elle a suivi ces 10 dernières années, mais au contraire atteindre une réduction annuelle de plus de 40 millions de tonnes de CO2.
Alors non seulement l'objectif est très élevé, mais la recette choisie par l'Allemagne pour y parvenir est elle-même un vrai challenge.
Oui, c'est vrai, aujourd'hui dans le mix énergétique allemand, 42% de la consommation d'électricité est assurée par une production issue d'énergies renouvelables. Or, l'Allemagne s'est engagée à faire monter cette part à 80% d'ici à 2030. Un défi là aussi immense, puisque le gouvernement doit en parallèle répondre aux besoins croissants en énergie du pays, tout en respectant son engagement de sortir totalement de l'énergie du nucléaire. Pour cela, deux paquets de réformes doivent être votés d'ici à l'été, afin qu'ils entrent en vigueur en 2023. Ils permettront entre autres d'inscrire le développement d'énergies renouvelables au rang d'intérêt public majeur, ou encore de réserver près de 2% du territoire allemand, rien qu'au projet d'installation d'éoliennes.
Eh bien, merci Romain, et merci à toutes et à tous pour votre attention.
C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.